Alors, maintenant, nous arrivons à l'avant-dernière étape de ce petit voyage et de cette petite conversation. J'ai cité tout à l'heure donc, ce livre à voix haute, sous-titré « Poésie et lecture publique », qui est l'un de vos ouvrages, édité donc, aux Impressions Nouvelles. Et donc, c'est le moment de vous demander un petit peu le tentative de résumé de l'aventure de cette maison d'édition, qui a une belle longévité maintenant, que vous avez cofondée donc, en Belgique. Donc, un petit peu l'esprit, le catalogue, en quelques mots. C'est évidemment difficile de résumer un catalogue entier en quelques mots, mais pour un peu situer votre démarche.
En fait, il faut que je commence par remonter un peu en arrière. C'est, comme beaucoup de maisons d'édition indépendantes, une maison qui est née d'une revue. La revue Conséquence, et la revue Conséquence qui a existé tout au long des années 80, est en fait une revue créée au Centre culturel de Cerisy. Puisque dans ces années-là, enfin, il y avait un groupe de jeunes gens, disons des auteurs en herbe, tous des débutants, on avait entre 25 et 30 ans à peu près, et on se réunissait chaque année autour de Jean Cardou, grand théoricien du nouveau roman et de la théorie du texte. Et les jeunes autour de lui ont ressenti le besoin de créer leur propre revue, et dans le sillage de cette revue, une maison d'édition qui, au début, se réclamait. C'était peut-être la première maison d'édition vraiment postmoderne en France. Qu'est-ce que j'entends par postmoderne ? Une maison d'édition qui se proposait de brouiller les pistes entre culture légitime et culture populaire, sans bien entendu évacuer la différence entre ce qui est valable et ce qui l'est un peu moins, mais sans tenir compte, disons, des classifications stéréotypées. Donc c'était une maison d'édition qui publiait à la fois donc, du roman graphique, qui dans les années 80 n'avait pas encore le statut qu'il a aujourd'hui, des textes littéraires vraiment d'avant-garde, carrément expérimentaux, pour ne pas dire par moments un peu illisibles, et qui, au cours des temps, s'est spécialisé essentiellement dans deux domaines, la critique et la théorie de la bande dessinée, d'une part, et la théorie et la critique de la culture visuelle, d'autre part, ce qui ne signifie pas que la maison ne publie plus de fiction, mais essentiellement, c'est devenu maintenant une maison, ça reste une maison généraliste, mais le focus est quand même mis sur la réflexion accessible, mais moderne, contemporaine sur la culture visuelle et la bande dessinée. Bande dessinée au sens de nouveau large du terme, il y a de la place pour le roman photo, évidemment.
Merci.
Et permettez-moi encore d'ajouter que depuis donc sa création en 85, la maison a déjà publié plus de 300 titres et publie bon an, mal an, tout de même entre 15 et 20 titres.
Par an,
ce qui en fait une maison d'édition indépendante de taille moyenne. Ça n'est plus une petite maison d'édition.
Et puis qui emploie aujourd'hui 4 personnes, hein, vous me disiez tout à l'heure.
C'est bien ça, oui.
Alors maintenant, on va justement conclure l'entretien, puisque c'est presque la seule question un peu rituelle et qui revient à chacun des entretiens. Alors, celle-ci, elle est déjà un peu guidée par l'entretien qu'on a eu avant que ne débute l'enregistrement, mais c'est un peu une question qui permet de fonder une sorte de bibliothèque idéale en collectant des conseils de lecture ou pour faire découvrir des auteurs. Et là, peut-être que j'ai envie d'évoquer un auteur que vous citez, et que plus que vous citez, auquel vous consacrez un chapitre dans « À voix haute ». Et donc, je vais commencer le tout début par le lire avec ma propre voix, et après je vous laisserai nous dire un peu plus pourquoi vous avez eu envie de consacrer un chapitre à cet auteur qui est Kenneth Goldsmith, et le chapitre s'intitule « inventé la non-création, sous-titrée donc Kenneth Goldsmith. Créateur d'UbuWeb, le site portail international de l'avant-garde, mais aussi poète, théoricien et grand performeur, Kenneth Goldsmith est un de ces auteurs qui laissent tout le monde perplexe, mais personne indifférent. Ses lectures publiques qu'il considère comme une partie essentielle de son travail posent également une série de questions fondamentales. Comme tant d'autres poètes, Goldsmith dérive ses performances d'une théorie de l'écriture issue chez lui d'une réflexion sur les rapports entre littérature et technologie. Alors, je m'arrête là. Je vous laisse, c'est très court, mais vous laissez évoquer cette figure importante de la littérature et de l'avant-garde aussi, entre autres, pour la pérennité de ce portail fabuleux sur lequel nombre de documents audiovisuels sont présents.
Effectivement. Goldsmith est un... Je ne sais pas si c'est un cas exceptionnel en soi, puisqu'il n'est sans doute pas le seul à pratiquer, disons, ce qu'on pourrait appeler ou qualifier de remix ou de sampling, au fond de copier-coller, de montage, etc. Mais c'est de loin, enfin pour autant que je puisse en juger, de loin celui qui va le plus loin. C'est-à-dire qu'il s'interdit, dit-il, puisque comme tout le monde, il triche un peu, ça fait partie du charme de son œuvre, il s'interdit d'écrire quoi que ce soit d'original. C'est-à-dire que tout son travail, tous ses livres ne font que recopier des textes qui ont déjà été écrits. Cela dit, on peut copier, recopier de 36 façons différentes. Et lui le fait de façon très intelligente, en ce sens que il ne se contente pas de faire ce qu'a fait Marcel Duchamp dans le domaine des arts plastiques ou des arts visuels, à savoir sélectionner un fragment, un objet indépendant pour le transformer en œuvre d'art grâce au contexte muséologique et autres dans lequel cet objet est introduit. L'objet même, le corpus sur lequel travaille Goldsmith, c'est tout de suite une archive complète, donc une collection, un corpus très vaste, mais un corpus, disons, ignoré, abandonné, négligé, que lui revisite, qui revisite en faisant en présentant une sélection, voire la totalité du corpus en question, et en le présentant d'une manière qui permet d'accéder à des significations qui auraient pu échapper à celle ou à celui qui découvre l'archive brute. C'est-à-dire que la seule transcription et la présentation typographique d'une archive orale, par exemple, permet de faire surgir des significations totalement ignoré au moment de la diffusion originale de l'archive orale. Inversement, il lui arrive aussi de reproduire ou de réinventer oralement sur scène des documents parfaitement écrits, comme par exemple des bulletins météo qu'il a recopiés à gauche et à droite et qu'il arrive à réinventer grâce à l'intelligence avec laquelle il lit et présente les textes sur scène. Et quand je dis intelligence et originalité, il ne faut pas penser du tout à des mises en scène exubérantes ou des performances à la Artaud. Non, c'est sa diction est relativement neutre, mais c'est quelqu'un qui a appris son métier à la radio. Il a, pendant de nombreuses années, animé une émission radio, un peu comme, je ne sais pas si vous la connaissez, comme Pauline Kael, K-A-E-L, qui passe en général pour la plus grande critique cinématographique du XXe siècle. Et là aussi, c'était quelqu'un qui avait appris à parler devant, enfin, face à un micro et à faire, enfin, à communiquer l'essentiel d'un message en 2-3 minutes. Et donc, Goldsmith sera, enfin, se souvient certainement de cet exemple-là. Et ce qu'il est en train donc de réaliser dans le domaine de l'écriture, il appelle, lui, une écriture sans écriture, puisqu'il n'invente rien, il ne fait que réarranger. C'est pour moi quelque chose qui en fait un possible candidat au prix Nobel.
Et ça rejoint donc ce titre, Inventer la non-création.
Absolument, voilà. Oui.
Eh bien, merci infiniment, Yann, d'avoir pris ce temps
Fabien.
Et d'avoir fait ce petit voyage avec nous.
Voilà.
Et bonne fin de séjour à Belfort. Et
merci.
Encore merci pour ce temps d'échange pendant la conférence.
Ok. Merci à vous.